heureuse de vous accueillir pour la première séance de ce samedi. Hier, nous avons commencé avec Richard Rognier et Laurent de Haffringue et Claude Vautrin. Laurent de Haffringue était là tout à l'heure, il n'est pas là à la seconde. L'assistance a été nombreuse, les questions soutenues, et je me suis laissé dire que Richard Rognier n'avait pas amené assez de livres pour être dédicacé. Donc vous imaginez un peu ce qu'a pu être le succès de cette conférence. Alors nous allons continuer donc aujourd'hui avec Emmanuel Pierrat, que je remercie de bien vouloir participer. Emmanuel est avocat au barreau de Paris. Il est passionné par plusieurs choses, et notamment par le droit d'une manière générale. Il est ici aujourd'hui parce que c'est un spécialiste du droit des auteurs, donc c'est extrêmement intéressant pour les auteurs des Imaginales. Et il est également passionné par la franc-maçonnerie. Donc il a commis deux ouvrages, un ouvrage donc sur les francs-maçons sous l'occupation, et puis un ouvrage sur le docteur Pierre Simon, dont il va vous entretenir aujourd'hui. Pierre Simon qui a joué un rôle extrêmement important, à la fois sur le plan maçonnique et sur le plan médical. Mais Emmanuel vous en dira beaucoup plus sur le sujet. Donc Emmanuel, je te passe la parole.
Parfait. Merci Jacques. Bonjour à tous. C'est pas utile de parler dans le micro, non ? Ça vous semble nécessaire ? Parfait. Deux, trois précisions rectificatives, si je puis me permettre, Président. D'abord, pour commencer, effectivement, je suis avocat parisien, mais enfin, ma famille est née à Saint-Dié-des-Vosges. La totalité de mes oncles, mes frères, ma grand-mère, mes grands-pères, enfin bref, je suis le seul à m'être échappé. Donc, je ne suis pas totalement étranger à cette région, à ce pays. Je suis un peu écrivain, un peu plus que tu ne l'as dit, si je puis me permettre. Je suis spécialiste du droit des auteurs d'un côté, mais j'ai écrit 106 livres. Donc, ce qui fait que je viens ici avec une autre casquette aussi. Et puis, je vais t'envoyer les autres, mais sur la franc-maçonnerie, j'en suis 8, ouvrage d'histoire, je pense. Et puis, j'ai quelques fonctions comme conservateur d'un musée à Paris et deux, trois choses qui me font que je me penche beaucoup, beaucoup sur les questions d'histoire. Mais je te remercie infiniment, Jacques, ou je vous remercie, Président, je te remercie infiniment, ainsi que Stéphanie Nico, qui est mon lien d'origine avec les Imaginales, pour m'avoir demandé de plancher ici, puisque c'est le terme, normalement, quand on travaille dans un temple maçonnique. Mon lien avec la franc-maçonnerie, affichons-le clairement, parce qu'ici, je ne pense pas qu'il y ait grand monde d'hostiles, même s'il y a des maçons et des non-maçons. Mon lien avec la franc-maçonnerie, c'est que j'appartiens au Grand Orient de France depuis déjà un bon paquet d'années, mais que j'essaie de faire un travail objectif sur la maçonnerie et son histoire, en tout cas son application dans la société française, dans les arts, dans les lettres, dans les lois sociétales, en essayant de garder mes propres opinions, entre guillemets, par devers moi, et en pensant que néanmoins l'appartenance à une obédience maçonnique largement reconnue et ancienne permet quand même d'avoir accès à 2-3 archives plus facilement que quand on travaille depuis l'extérieur. Le travail que j'ai, dernier travail que j'ai important sur la franc-maçonnerie et sur ses membres et leur rapport avec l'histoire de France, c'est un travail autour de Pierre Simon, qui est un personnage très important pour moi, tombé dans l'oubli, et c'est pour ça que je lui ai consacré une biographie sortie il y a 2 mois en librairie, parce que il est pour moi indispensable, c'est l'homme clé pour comprendre une grande partie de l'évolution de la société française depuis la sortie de la Seconde Guerre mondiale dans ce qu'on peut appeler le droit à disposer de son propre corps, ainsi que ça concerne le droit des femmes à disposer de leur propre corps, comme le droit des hommes et des femmes aujourd'hui à vouloir finir dignement, par exemple, leur existence, non pas sur cette terre, mais dans cette version de leur existence. Pierre Simon, deux mots, je vais vous le résumer avant de revenir un peu plus longuement. Pierre Simon, il a été grand maître de la Grande Loge de France, ce qui fait que c'est un sujet maçonnique, mais il est surtout le premier sexologue français, le gynécologue, endocrinologue, le premier à avoir importé l'accouchement sans douleur en France, à avoir créé, il est cofondateur du planning familial, il est le rédacteur des lois de Lucien Neuwirth sur la contraception, en tout cas la légalisation de la contraception, il est le rédacteur des lois de Simone Veil, portées par Simone Veil magnifiquement pour dépénaliser l'avortement ou légaliser l'IVG. Il est le rédacteur avec Henri Caillavet de la loi sur le don d'organes, 1976. Il est le créateur de l'association pour le droit de mourir dans la dignité. Il a été un homme extrêmement important, et raconter sa vie permet de comprendre les enjeux, les tensions qui traversent d'ailleurs encore la société française ou même irlandaise hier, dans le bon sens d'ailleurs. Hier, on va saluer le résultat à 68% pour enfin légaliser l'avortement dans un pays de l'Union européenne, de ce qu'il en reste. Pierre Simon, il est je pense, dans toute sa vie, porté par une idée qu'on résumera en disant que c'est du néo-malthusianisme. Vous savez, il y a une formule de Malthus très ancienne qui dit « la difficulté n'est pas de faire des enfants, mais de les nourrir ». Le néo-malthusianisme, c'est penser un peu au-delà et penser qu'effectivement, il y a des fléaux sur la planète qui peuvent être combattus par une maîtrise de la démographie, de la population, et qu'il vaut mieux, pour cette maîtrise, en passer par ailleurs par une émancipation, une mise aux normes de l'égalité, du droit des femmes et des hommes à décider du fait d'avoir ou non des enfants, et éventuellement, vous l'avez compris, dans la fin des travaux de Pierre Simon également, la possibilité de décider soi-même qu'on est peut-être de trop sur la planète, non pas parce qu'on est trop sur la planète, mais parce qu'on décide qu'on a fait son temps ici. Bref, c'est partir d'une idée, le malthusianisme, pour arriver à quelque chose qui est la possibilité de décider pour soi-même, et non pas en raison de contraintes sociales et de normes idiotes, et éventuellement au mieux pour la planète, qu'on peut maîtriser la naissance et éventuellement maîtriser une partie de la mort. Pierre Simon, pour comprendre cet engagement, cette façon, ce qu'il va faire, son œuvre, il faut d'abord revenir un peu en arrière. Il est mort en 2008, il est passé à l'Orient éternel en 2008, comme on dirait ici lors de travaux. Il est né en 1925 à Metz, dans une, ce qu'on appela une grande famille de la bourgeoisie juive alsacienne, pour faire simple. Mais 1925 à Metz, je ne vais pas vous faire un cours d'histoire qui ne mérite pas, vous avez tous heureusement en tête. Quand on a 15 ans et qu'on est juif en 1940 en France, les choses ne se présentent pas extraordinairement. La famille est évidemment dispersée, elle s'enfuit, entre guillemets, elle se disperse en France, elle se cache, certains partiront, etc. Pierre Simon, il est, entre guillemets, placé dans les Alpes, adolescent, sous un nom de couverture, dans une famille protestante, avec l'espoir qu'il pourra à un moment ou à un autre réapparaître, qu'il apparaît sous un faux nom. Il y a deux façons de raisonner. Quand on a 15 ans, qu'on est juif et qu'on doit se cacher, entre guillemets, en tout cas se cacher aux yeux d'une partie de la société et transformer son identité propre. Il y a à être résigné, pourquoi pas, parce que la peur, parce que les circonstances, parce que la jeunesse, parce que 100 000 choses ne permettent jamais de juger quelqu'un qui a peur et reste inactif. Et puis il y a une autre façon de faire, qui est celle de Pierre Simon, c'est de considérer que la fatalité n'existe pas, que les hommes sont maîtres de leur destin et qu'il y a là peut-être un premier champ d'action. À 15 ans, Pierre Simon décide de faire passer des enfants juifs français de l'autre côté de la frontière en Suisse, en leur faisant apprendre « Maréchal, nous voilà » et en les déguisant, entre guillemets, en de parfaits petits goyim, en leur faisant apprendre tout le corpus qu'il est nécessaire pour passer devant les sympathiques gendarmes au service de Vichy, il faut toujours le rappeler, qui sont chargés, les premiers, de traquer les enfants juifs et de les faire arrêter. Pierre Simon utilisera donc les moyens du bord et réussira, petit résistant, parce qu'à 15 ans on n'est pas encore un immense héros, mais c'est déjà formidable, à apporter cette première pierre à quelque chose qui est de combattre encore une fois la fatalité et considérer qu'il n'y en a pas. Pierre Simon, à la sortie de la guerre, choses sont compliquées. Il hésite, d'abord il faut reprendre sa scolarité, finir ses études, essayer de passer son bachot. Et puis, il y a des tiraillements personnels, d'un côté, devenir comédien, acteur. Il se liera très vite avec le mime Marceau et tout un tas de gens. Il fera de la pratique amateur, mais même très avancée. Et puis, il hésite aussi avec la médecine. Parce qu'il y a là quelque chose qui l'intéresse, qu'elle intéresse, parce que quand on a vécu la vie, la mort, il y a des choix plus essentiels que, je ne sais pas, vendre des sardines ou j'en sais rien. Il y a quelque chose de plus, de plus déterminant dans le fait d'être médecin ou dans des professions qui touchent à des choses très essentielles. Chose va lui permettre d'attendre et en même temps le faire beaucoup réfléchir. Il décide d'aller à Nuremberg assister au procès des bourreaux. Un an et demi de procès, 45-46, je ne vous donne pas les dates précises, vous les connaissez plus ou moins, pendant lesquelles il, sur le banc du public, il assiste au passage et aux théories et aux proférations des génocidaires et aux accusations qui sont portées contre eux. Là-dessus de ça, le raisonnement est à peu près acquis. Comédien lui semble sans doute important, mais peut-être un peu futile. La médecine à Paris lui semble une voie qui permettra peut-être d'arriver à quelque chose pour apporter un peu de bien supplémentaire à la société qui lui montre un visage chinois. Pierre Simon, quand il arrive à Paris pour faire ses études de médecine, c'est le début d'une matière nouvelle, l'endocrinologie, les hormones. Il y a plein de matières nouvelles qui se présentent dans la médecine française, même si celle-ci est alors dirigé par ce qu'on appelle l'ordre des médecins, qui existe toujours, sympathique à l'invention du maréchal Pétain, qui, dont la première objectif, la première feuille de route a été de commencer par radier de la pratique professionnelle tous les médecins juifs de France. Il faut toujours l'avoir en tête, hein, quand l'ordre des médecins réagit et donne des injonctions, il faut toujours penser à une histoire qui n'est pas si... Je ne dis pas que l'ordre des avocats est meilleur, parce que nous sommes plus anciens, mais nous avons directement radié les juifs du barreau, c'était encore mieux, sans avoir besoin d'avoir reçu un ordre de Pétain. Mais il faut toujours donc réfléchir à ces corps intermédiaires et à la façon dont ils réagissent après sur des débats de société qui peuvent être extrêmement intéressants et en apparence moins graves, mais qui sont tout autant. Je dévide mon sujet, j'y reviens. Pierre Simon, donc, rentre comme à l'hôpital Bretonneau comme interne en gynécologie. C'est la discipline qui permet après d'aller vers beaucoup, beaucoup d'autres directions nouvelles qui s'ouvrent. La première clientèle, entre guillemets, patientèle dont il doit s'occuper, c'est deux types de misère sociale chez les jeunes femmes. C'est les prostituées de Montmartre qui font partie de l'affectation du service avec maladie vénérienne, avortement avec des aiguilles à tricoter ou que sais-je encore, crasse, horrible misère sociale, macro, tout ce que vous voudrez. C'est aussi les danseuses des Folies Bergères qui, une fois enlevées les plumes de la scène, sont à peu près dans le même état de misère sociale. Ce sont des filles qui sont contraintes par ce qu'on appellerait les dictats de la beauté aujourd'hui, mais en vérité qui sont juste esclavagisées, se montrent extrêmement charmantes d'un côté, de l'autre côté, avortent. Et dans la misère la plus complète, dans la crasse la plus indigne. Pierre Simon, lorsqu'il pratique son premier accouchement, par hasard, parce qu'il est là et parce que d'un seul coup les contractions commencent, il se dit que la vie c'est extraordinaire, mais ça n'est pas un miracle. Ou alors si c'est un miracle, il a lieu dans le sang, dans les tripes et dans la merde. Et qu'il y a surtout, par-dessous tout cela, la douleur. Et que la douleur, elle n'est pas liée uniquement au milieu social de ses filles. La douleur, elle fait partie de la doctrine qui est martelée en permanence à cette époque-là et depuis longtemps. Tu enfanteras dans la douleur. Il n'y a pas d'autre conception possible à la sortie de la guerre que d'enfanter en souffrant, que vous soyez au sommet de la bourgeoisie ou la dernière des péripapéticiennes de Montmartre. Ce dogme, il est porté par deux institutions, j'en ai cité une tout à l'heure, c'est l'ordre des médecins, l'autre évidemment, dans laquelle je suis né et que j'ai définitivement rejeté pour plein de raisons, mais je ne suis pas là pour un discours anticlérical, c'est évidemment l'Église catholique. Il suffit de regarder, comme je l'ai fait, j'ai beaucoup beaucoup travaillé sur les archives écrites, mais j'ai aussi, je me suis cogné, si je puis me permettre, tous les débuts des plateaux télé, c'est-à-dire des débats, entre guillemets, à l'ORTF et ainsi de suite, où on voit notamment Pierre Simon plus tard, mais surtout à chaque fois les opposants, qui sont des curés en soutane dignes du XIXe siècle, qui continuent à marteler, d'abord dans les premières émissions, sur ce sujet qu'on doit absolument enfanter dans la douleur et qui n'est pas possible autrement. Vous le savez, le sous-jacent de ça, c'est qu'il faut réparer ou payer pour le péché de départ qui consiste à avoir eu des relations sexuelles. C'est quelque chose de... Il faut à la fois faire des enfants et en même temps, il y a quelque chose de répréhensible dans la façon même dont on arrive à faire des enfants. Pierre Simon, tout de suite, se dit que ça n'est pas possible et que ce dogme doit être éradiqué. Il cherche comment juguler la douleur, en tout cas la maîtriser ou arriver à la réduire. C'est à Leningrad, dans l'URSS, dont la médecine est particulièrement, on va dire, progressiste, des fois que le reste de la société le soit, que les choses se font. Vous savez, il y a une grande école de médecine russe, comme il y aura une grande école de médecine cubaine, dans des conditions très compliquées, mais il y a véritablement quelque chose qui se passe, notamment chez le professeur Nikolaïev à Leningrad, à l'époque Leningrad, qui a travaillé et commencé à développer les premières techniques de ce qu'on appellera l'accouchement sans douleur. On n'est pas encore à la péridurale, on est quelque chose de plus embryonnaire, c'est pas le bon terme, primitif, si vous voulez, mais qui sera beaucoup développé par la suite, mais qui est déjà un immense progrès. Pierre Simon, il décide d'aller passer 6 mois à Leningrad pour apprendre. Il n'est absolument pas communiste. Autant être clair, il le dit très souvent, il le dira très souvent, j'ai pas échappé à la peste noire pour aller dans la peste rouge. Puis il dit, puis j'étais trop jeune, il expliquera aussi son entrée en maçonnerie en disant, à mon époque, j'étais trop jeune, on n'avait pas encore inventé le gauchisme. Donc résultat, la maçonnerie m'a servi d'intermédiaire ou de voie entre quelque sorte du milieu ou de juste milieu. Mais donc le communisme, ça n'intéresse pas du tout. Il pense pique-pendre de Staline et tout ce qui va. Que ça vaut à peine mieux, pas beaucoup, que les sectes hitlériennes. Il aura la même attitude plus tard, j'y viendrai quand il ira chez Mao, enquêter ou s'intéresser à la politique de l'enfant unique et à la façon dont on arrive à la mettre en place. il le fera toujours, avec la même curiosité, la même distance, aller chercher partout où il est possible de trouver des techniques et des améliorations, un progrès scientifique, des idées nouvelles, et puis après ne pas embarquer la totalité du corpus qui a présidé à cette année, à la naissance de ces idées. Il revient, l'endroit où il va travailler sur cela, c'est un endroit assez connu pour le droit des femmes, en tout cas les améliorations dans l'accouchement notamment, c'est la clinique des Bleuets à Paris, qui a été le terreau, le laboratoire, si je puis me permettre, dans lequel on a commencé à développer beaucoup, beaucoup de choses, dont l'accouchement sans douleur. Ça mettra à peine 5 ans à faire le tour de France et à se répandre à peu près dans tous les services possibles, passer et se libérer de cette chose que finalement, en dehors des curés et des médecins, et puis d'un corpus social quand même intéressant, parce que dans le processus général, on pense que le père de famille, le mari, doit entendre la douleur de sa femme. Donc il y a quelque chose de la mise en scène publique, mais une fois qu'on a expliqué aux gens que ce n'était pas possible, à part les quelques dingues qui continuent à penser que c'est absolument nécessaire, tout le monde se convertit très vite à l'idée selon laquelle il faut avancer et progresser. Il y a, à partir de là, une réflexion chez Pierre Simon qui, très rapide, consiste à penser au coup d'après. Qu'est-ce qu'il faut faire après? Ça sera sa façon de faire toute sa vie, c'est chaque fois qu'on gagne une bataille, il faut penser à la bataille suivante qui doit se présenter devant soi, et ne jamais s'arrêter. De la même façon que je vous disais tout à l'heure qu'il faut choisir d'agir plutôt que de subir, il faut choisir d'avancer, de progresser, le travail nous attend, et nous n'aspirons jamais au repos. Il va, à partir de 1954, faire un important voyage à Londres, où il rencontre des féministes qui sont responsables de ce qu'on va appeler la première internationale de la planification parentale. C'est-à-dire l'embryon de ce qui... Pardon, je ne sais pas ce matin, j'ai décidé de dire l'embryon, je savais qu'il ne le faut pas. Mais voilà, les prémices de ce qui deviendra, vous l'avez compris, le planning familial, et qui s'appellera d'abord en France dans un premier temps la maternité heureuse. Joli euphémisme. C'est à Londres, évidemment, que les choses se sont faites. Pourquoi? Parce que c'est à Londres que sont nées les suffragettes, qu'il y a tout un mouvement féministe et très important, et notamment de communication et de politique, au sens le plus direct du terme, de façon de convertir les citoyens et les citoyennes dans la rue, en montant sur une mini-estrade à Hyde Park ou quoi que ce soit, qui consiste donc à haranguer la foule et puis à propager les meilleures idées. Nouveau stage, entre guillemets, du jeune médecin Pierre Simon à Londres, et il revient avec cette espèce de kit idéologique et de communication qui consiste à dire il faut enseigner, propager les techniques nouvelles, changer les mentalités en créant des centres dans lesquels les femmes, mais aussi les époux, les maris, les compagnons doivent pouvoir venir et apprendre qu'il est possible de concevoir autrement la vie d'un couple et le fait d'avoir ou non des enfants, de tomber ou non enceinte. Il y a aussi à côté de ça très vite, pour Pierre Simon, d'autres armes pour avancer. Il crée ce qui s'appelle le groupe Littré, qui est un groupement avec des gens très divers, mais qui ont tous comme obsession de travailler à l'abrogation d'un texte de loi extrêmement fondateur et abominable, qui est la clé de voûte de toute cette structuration portée ensuite par l'Église catholique et l'Ordre des médecins. Cette loi, c'est la loi de 1920, qui interdit la contraception et l'avortement. Petit retour en arrière, guerre de 14-18, 1 million de morts, 1 million d'ouvriers, d'employés manquants, d'agriculteurs, 1 million de vies de Français à refaire. 1920, interdiction formelle, une bonne fois pour toutes, alors que jusqu'ici, ce sont des préconisations, des circulaires de ministères, etc., interdiction absolue de promouvoir, non seulement d'utiliser, mais aussi de promouvoir la contraception et l'avortement, qui sont mises d'ailleurs sur le même plan. 1921, pour votre information aussi, instauration du délit de propagande antinataliste, c'est-à-dire interdiction de faire la promotion d'un contraceptif, quel qu'il soit, loi qui est toujours en vigueur, que vous trouvez dans le Code de la santé publique et qui vous explique tout noir sur blanc qu'il est donc impossible de faire de la publicité dans une affiche dans la rue ou sur un abribus pour le stérilet ou une technique contraceptive. La seule tolérance qui existe depuis les années 80, c'est en raison de l'épidémie de sida et du coût économique de l'épidémie, la tolérance pour le préservatif masculin. Et ça n'est qu'une tolérance par rapport à la loi. Et la loi dit quoi? Dit que le seul endroit où vous pouvez promouvoir le contraceptif, c'est à l'intérieur de la boîte dans laquelle il est vendu. Ça va? C'est-à-dire sur le mode d'emploi. Ça, c'est la société française d'aujourd'hui. Je vous reparlerai de ce qui a été changé depuis avec grâce à Pierre Simon et à d'autres, mais réfléchissez tous sur cela dans un pays où il y a 45 000 adolescentes qui tombent enceintes chaque année. Il y a quelque chose là de, vous voyez, de non résolu qui me semble bien plus capital que des tas d'autres chantiers supposés être primordiaux. Il y a, pour Pierre Simon, donc avec le groupe Littré, l'idée qu'il va falloir s'attaquer à la loi de 1920 parce que c'est ainsi, en faisant changer d'abord le droit, mais aussi en inventant les progrès médicaux et aussi en travaillant sur la communication, le bouche à oreille, sur ces trois leviers, qu'on arrivera à faire véritablement progresser la société. Le droit sans la médecine, ça ne sert à rien. La médecine sans la loi, ça ne sert à rien. Et la médecine plus la loi sans avoir parlé aux gens, ça ne sert à rien non plus. Donc les trois doivent aller ensemble. Et Pierre Simon, c'est cette idée. Le groupe Littré, c'est pour travailler et concevoir des textes pour abolir les lois liberticides. Le planning familial, ça sera pour propager la bonne parole. Et les congrès médicaux et les voyages, c'est pour aller chercher toutes les techniques possibles médicales qu'il faut essayer et ensuite répandre si elles marchent. Tout cela, évidemment, il va le démultiplier en étant initié en 1953 à la Nouvelle Jérusalem, à la Grande Loge de France, à l'Orient de Paris. Et il le dit très clairement, je suis rentré en loge parce que ça correspondait pour moi, encore une fois, à une espèce de recherche de quelque chose qui pouvait être équilibré. Et il dit très vite aussi, et il suffit de lire les travaux et les planches qu'il a faites. Il a fait à peu près, je pense, 1200 planches uniquement sur la contraception, l'avortement, l'accouchement sans douleur, l'IVG. Enfin, vous voyez, c'est une obsession. Et ses frères ont dû beaucoup, beaucoup trouver que le sujet était certes passionnant, mais peut-être, voilà. En tout cas, donc, il le dit, la maçonnerie, elle m'a servi à faire, ma foi, elle m'a fait énormément de bien, mais par ailleurs, elle m'a servi véritablement de terreau pour propager mes idées. Voilà. Et il attrapera toute sa vie, hein, jusqu'à la grande maîtrise, il continuera au couvent de la Grande Loge de France, c'est-à-dire, pardon, à l'Assemblée Générale qui a lieu chaque année où toutes les loges se réunissent et où on vote comme dans toutes les obédiences maçonniques, l'Assemblée Générale, voilà. Donc il y a un millier de délégués. Le discours de Pierre Simon, grand maître de la Grande Loge de France, c'est avortement, contraception, enfin, c'est un discours qui, certes, peut être maçonnique, mais quand même très loin de ce qui peut ressembler aujourd'hui à un couvent de la Grande Loge de France, ou même du Grand Orient de France cet été, en 2018. Et sur des terrains peut-être moins sociétaux et peut-être moins exclusifs. En tout cas, Pierre Simon, la maternité heureuse, elle est en route. Il la lance, 1955, avec quelques amis, dont évidemment des femmes. Elle se développera, vous le savez, au point d'avoir jusqu'à 500 000 membres, juste dans les années, début des années 60. Hein, la loi Neuwirth, c'est 67, soit Simone Veil, 74. Donc il y a 12 ans de travail avant d'aboutir, et le travail n'est pas terminé parce qu'il fallait maintenir évidemment le planning familial qui existe toujours, même s'il est mal en point en raison de problèmes budgétaires. Pierre Simon, très vite aussi, il se dit, 1953, donc initiation, 1955, la maternité heureuse, dans la foulée, il se dit qu'il y a Mao en Chine et qu'il commence à se passer des choses intéressantes sur les questions de démographie. Allez hop, 6 mois en Chine, populaire, pour apprendre ce qu'il appellera, très justement, la propagande. La propagande, c'est-à-dire comment communiquer vis-à-vis du grand public et des masses, peu importe la façon dont les gens sont plus ou moins libres, communiquer le message selon lequel, très sincèrement, on se porte mieux quand on a 1, 2 ou 3 enfants choisis que quand on en a 8 de façon involontaire. Et donc ça passe par des messages, des films, des pièces de théâtre, des affiches, des discours, des notices, et ça passe par un discours qui s'adresse aux médecins, aux mères de famille, aux pères de famille, à tout le monde. Et pour ça, il y a des kits, il y a des modèles, il y a des choses qui ont été travaillées, et ça marche en Chine, et il se dit qu'il n'y a pas de raison que même adapté légèrement, ça ne marche pas en France. De fait, il utilisera beaucoup cela, de la même façon qu'il passera son temps aussi à aller en Suisse, ou de l'autre côté donc de la frontière franco-suisse, eh bien, les techniques de contraception sont libres. Et il passe son temps donc à aller chercher les documents, les textes rédigés par la médecine suisse pour expliquer comment ça fonctionne et aussi à rapporter chaque fois qu'il y va dans sa valise du matériel parce qu'un voyage doit être vraiment utile. Et donc si on a de la place, et bien, tant qu'à faire, on remplit sa valise de contraceptifs d'une façon ou d'une autre, notamment de diaphragme. Ça a été sa grande spécialité. Il s'est fait coincer une fois à la douane avec sa valise qui s'est ouverte parce qu'elle toque, paf, et bloum, le truc s'ouvre, il y a 50 diaphragmes qui tombent. Le douanier français, parce qu'on est arrivé du côté français, le regarde avec des yeux écarquillés, comprend quand même assez vite de quoi il s'agit, hein, il habite à la frontière suisse, donc il a vaguement une idée quand même que ça existe. Et là, Pierre Simon, attitude toujours la même, n'est pas résigné, ne dit pas pardon, etc. Il dit, vous savez comment ça marche ? Donc, et il en ouvre un, il commence à le montrer. Comme il est gynécologue, il dit, je suis gynécologue, je vais vous montrer, vous allez expliquer à votre femme, et tatati, et tatata. Le douanier le regarde, il dit, je peux en prendre d'autres. Et, le, voilà. Et ensuite, Pierre Simon saura qu'il y a là une voie de préférence à emprunter plutôt que le poste frontière suivant, qui vaut mieux repasser par là avec sa voiture, sa valise et ses diaphragmes. Mais c'est ça qui est merveilleux chez Pierre Simon, c'est à la fois la loi, le texte, et puis aussi, chaque fois qu'il le peut, il en a dans les poches, il en a partout, il en distribue. C'est, voilà. Ça me paraît une méthode absolument remarquable qu'il faudrait nous reproduire à chaque moment qu'on veut essayer de véhiculer une idée. Pierre Simon, c'est aussi un engagement très important au sein du planning familial. Le planning familial, hein, pour mémoire, certains d'entre vous connaissent, mais surtout nos parents parfois y ont été militants, quoi que ce soit. Ce planning familial, c'est ville par ville. Hein. Le premier centre, c'est Grenoble, et après, ça se développe. La loi 1920 interdit le planning familial. Hein. La loi 1920 qui interdit la contraception, l'avortement et la promotion des deux, interdit totalement l'idée d'un planning familial. Donc c'est l'illégalité ou la semi-clandestinité, et ça commence dans les arrière-cuisines. Ça commence dans les appartements. C'est comme une réunion du Tupperware. C'est chez quelqu'un et on invite des amis. Et puis peu à peu, ça se sait, peu à peu, il y a de plus en plus de monde, peu à peu, on ose mettre un panneau sur l'entrée. C'est pour ça que ça s'appelle au début la maternité heureuse. Hein. Ça s'appelle pas non à la loi 1920, nous passons outre. Il y aura à chaque fois de plus en plus de choses entreprenantes. Pierre Simon participe à beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ouvertures de centres de planning familial. Et généralement, pour des raisons diverses et variées, et grâce à ses frères de la Grande Loge de France, où il connaît quand même pas mal de monde et beaucoup d'élus locaux, se débrouille pour faire réserver, alors non pas le temple maçonnique, mais la salle des fêtes ou la salle des cérémonies publiques, peu importe, de la ville le vendredi soir. Le planning familial ouvrant généralement un week-end parce que les gens sont plus disponibles pour venir. Et donc le vendredi soir, Pierre Simon, sous un prétexte divers de conférences médicales, a réservé une salle et il fait un meeting en faveur de l'abolition de la loi 1920 et l'ouverture du planning familial le week-end suivant dans la même ville. Ça se termine généralement avec quelqu'un qui finit par appeler les gendarmes ou la police, qui normalement doivent l'arrêter parce que c'est un discours qui est réprimé par la loi pénale. L'ordre des médecins s'en mêle généralement, ils veulent poursuivre. Et puis la notoriété grandissante de Pierre Simon, son statut quand même de docteur en médecine, de gynécologue, d'enseignant, de 100 000 choses, fait que finalement on le laisse partir en lui faisant promettre qu'il ne reviendra pas. Non, il ne reviendra pas, il va avoir la ville suivante. Voilà. Donc c'est aussi cette façon, immense orateur, très 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 charismatique on dirait aujourd'hui, quand on voit on regarde, moi qui ai eu la chance de le rencontrer, il était très affaibli mais quand même, mais quand on regarde les images des discours, quand on entend à la radio ce qui a été saisi, c'est saisissant justement de conviction et d'allant. Je vais très vite parce que je prends beaucoup de temps. Il y a aussi chez Pierre Simon cette chose qui consiste à se dire c'est très bien d'avoir de commencer à vouloir changer la loi, d'avoir la technique médicale, de convertir le grand public, mais il va falloir aussi convertir les médecins. Il y a les réticences. Il n'a pas décidé de convertir les médecins les plus réactifs, hein, ça ne sert à rien. Ce qu'il faut convertir, c'est la population des jeunes médecins. Et les jeunes médecins, pour en faire des médecins qui savent et qui disent et qui pratiquent, il faut leur expliquer comment ça marche. Alors le diaphragme par exemple, qui est illégal, il faut savoir en poser un, comme il faudra savoir poser des stérilettes, faire tout un tas de choses et expliquer aux gens comment ça se manipule. Eh bien, ni une ni deux, Pierre Simon décide de reconvertir son appartement et cabinet, c'est un truc mixte, boulevard Saint-Germain, dans le 5e arrondissement à Paris. Il installe dans une partie de la cuisine des tables de travail qui consistent à avoir des patientes et des jeunes médecins et à poser du matériel. Alors évidemment, les volontaires, elles ne sont pas légion. C'est-à-dire que les médecins, oui, ils veulent bien voir et essayer. Trouver des femmes qui veulent bien en permanence pendant toute la journée servir de cobaye, moins évident. Ben Pierre Simon, il a soigné des prostituées, il va les voir, il leur dit voilà, hein, plutôt que de bosser cet après-midi pour un macro sur le trottoir, vous allez bosser pour moi au même tarif et vous allez vous faire poser des diaphragmes. Donc Pierre Simon recrutera comme ça jusqu'à 200 prostituées qu'il fera venir dans son cabinet pour pouvoir, etc. Et il finance tout ça en faisant de l'appel à cotisation, entre guillemets, et dont les bienvenus. Cette méthode, elle le poussera aussi, ce côté esprit d'entreprise dans le bon sens du terme, totalement philanthropique, elle le poussera aussi encore à des voyages, je vais passer dessus très très vite, mais il rapporte de Singapour, par exemple, en 1961, le premier stérilet, le tout premier stérilet. Il ne sait pas comment l'appeler en français, il dit le bidule au début, parce qu'il cherche le bon terme, hein. Il y a un terme médical, anglophone, il appellera ça le bidule pour la presse, et très vite il dira ça s'appelle le stérilet. ce qui était plus voilà, un néologisme qu'il a créé. C'était au début le bidule contraceptif intra-utérin, ce qui n'était pas voilà, le plus évident à vendre comme idée. Pierre Simon, le moment où ça va encore basculer véritablement, vous l'avez compris, il y a des dates clés, il y a l'accouchement sans douleur, il y a le planning familial, et puis il y a la rencontre avec Lucien Neuwirth. 1966, ça fait quand même un bon moment que le dossier, que le chantier est ouvert de l'avancée vers la légalisation, au moins de la contraception. François Mitterrand est le premier homme politique d'envergure, c'est-à-dire un candidat à la présidentielle, à prendre position en faveur de la loi sur la contraception. La difficulté, le dit Pierre Simon très vite, c'est que François Mitterrand a perdu l'élection. Donc ça ne sert à rien de s'énerver, il faut convertir ceux qui ont gagné. Hein, il faut être pragmatique. Le type de gauche très sympathique qui est allé, mais il a perdu, donc on ne va pas s'énerver, lui il est convaincu, ça ne sert à rien, il n'a pas assez de voix, donc il faut aller en face. Pierre Simon, il tombe à jour sur Lucien Neuwirth, qui n'est pas maçon, hein. Le plus jeune député gaulliste, il lui explique ses préoccupations, etc. Lucien Neuwirth s'est converti. Lucien Neuwirth demande sa seule et unique audience au général de Gaulle qu'il n'a jamais vue. Il est plusieurs députés du parti gaulliste, si je puis me permettre, et il demande audience à l'Élysée. À l'Élysée, de Gaulle le reçoit, l'écoute de façon un peu sceptique, lui dit il faut que je consulte. Oui, il consultera Yvonne de Gaulle, qui, aussi conservatrice et catholique soit-elle, n'en est pas moins une femme, qui donnera un avis favorable, je ne vous raconte pas toute la petite histoire parce qu'elle est très longue, qui donnera un avis favorable à son général de Marie, qui reconvoquera Lucien Neuwirth en lui disant on peut y aller. La loi Neuwirth passera grâce à la majorité des députés gaullistes et à quelques voix de gauche qui, heureusement, sont cohérents par rapport à leurs idées, et ce malgré donc une opposition d'une partie des voix de droite, trop conservatrice, hein, trop catholique, etc., et puis l'opposition d'une partie des voix de gauche qui vote de façon crétine, pardon, je dis ça en homme de gauche, hein, qui vote de façon crétine quand il s'agit juste de voter une proposition qui vient de l'autre camp. La loi Neuwirth passera, non sans une bataille importante et sans, très sincèrement, on parle beaucoup, et on a parlé beaucoup, et on va reparler quand elle rentrera au Panthéon, quand ses cendres rentreront au Panthéon le 1er juillet prochain de Simone Veil. Mais les injures que reçoit le jeune député Lucien Neuwirth sont absolument ahurissantes. Il a l'avantage quand même, surtout d'avoir été résistant, Lucien Neuwirth, et ça lui permet de parler de la vie et de la mort en disant que voilà, il a deux, trois choses dans son passé qui lui permettent de tenir un discours de façon cohérente sans être traité d'assassin immédiatement. Hein? Même système avec Simone Veil qui aura malheureusement devra se servir de son passé et du sort abominable de sa famille pour expliquer que c'est pas à elle qu'on doit raconter qu'elle est assassin ou une criminelle. Il y a tout chez tous ces gens, hein, le fait d'avoir côtoyé la mort à la fois les rend dans les pétris de convictions très fortes, mais en plus leur donne un argument supplémentaire à opposer aux esprits les plus étroits. Il y a, je vais aller vite sur la fin, il y a aussi des rencontres fructueuses. Pierre Simon deviendra très lié avec Robert Boulin, ministre de la Santé, qui accessoirement sera converti, rentrera à la Grande Loge de France, mais sera un homme clé à qui Pierre Simon présentera dès le passage de la loi Neuwirth, hein, dont on a célébré le vote en décembre dernier, hein, c'est décembre 67, 67, dès janvier 68, Pierre Simon dit il faut s'attaquer à l'avortement. Et pour s'attaquer à l'avortement, il faut parler au ministre de la Santé. Et il faut lui monter un dossier pour lui expliquer pourquoi la loi est obsolète, pourquoi la technique médicale permet de passer outre, enfin de changer les choses, et comment il faut avancer. Il fait une mission d'élaboration d'un rapport énorme dans lequel il consulte des curés, des religieux divers et variés, des philosophes, des professeurs de ce qu'on appellerait l'éthique aujourd'hui, des médecins, des scientifiques, tout le monde. De façon à ce qu'aucune voix ne puisse dire « je n'ai pas été consulté ». Pierre Simon, en parallèle, 1969, il fait deux choses importantes. D'abord, il devient grand maître de la Grande Loge de France, donc ce n'est pas une année érotique, c'est une année maçonnique. Et puis, il fait aussi, la même année, ce qui s'appelle le rapport Simon sur la sexualité des Français, qui est l'équivalent du rapport Kinsey, vous savez, sur le comportement sexuel des Américains. C'est la première grande étude sur la façon dont réellement les gens dans ce pays se touchent ou ne se touchent pas, ça coupe ou ne ça coupe pas, et comment ils le font pour essayer de comprendre comment ça marche. Enfin, comment ça marche, quelles sont les pratiques et les mœurs et les idées des Français. Tout cela permet d'avancer, évidemment, vers quelque chose de très cohérent. La chose cohérente, ça sera ce projet. Là, s'il y a un moment, il y a un contre-coup du sort, dans un projet déjà difficile à porter, c'est que, comme vous le savez, quelques remaniements gouvernementaux et quelques changements de président entre 69 et 74 se produisent. Quand Pompidou arrive, on se retrouve avec un ministre de la Santé qui est Jean Royer, qui est une horreur, qui évidemment fout dehors Pierre Simon, tous les consultants de près ou de loin qui sont liés à un début de dépénalisation de l'avortement. Le coup de bol, c'est que Giscard arrive en campagne, à la mort de Pompidou, si je puis me permettre, hein, prenons-le comme une bonne chose. Giscard rentre en campagne et c'est la première fois, cette fois-ci, qu'un candidat à la présidentielle porte le discours de la dépénalisation de l'avortement. Mitterrand, quelques années plus tôt, sur la contraception, Giscard d'Estaing, contre l'avis de son propre camp politique, qui lui dit c'est du suicide, dit non, ça fait partie de mes convictions, on y va. Et le met au programme. Le Giscard d'Estaing, dont on peut ricaner aujourd'hui sur deux, trois choses, est pour moi quelqu'un de très important sur plusieurs sujets, notamment celui-ci. Hein. Et c'est encore une fois l'homme de gauche qui parle, avec beaucoup, beaucoup de réticence sur tout ce que vous savez de Giscard, mais néanmoins, quand on relit les travaux, ce qui a été porté, c'est cela, ça sera l'abaissement de la majorité sexuelle, ça sera la catégorie X au cinéma qui permettra pour la première fois de montrer des films érotiques, ça sera quand même des choses qui sont très intéressantes d'un point de vue de la société et de son évolution. On peut attribuer ça à 68, moi j'attribue ça à 68 et à Giscard d'Estaing, pour être clair. Il y a donc l'idée d'un seul coup très forte d'un nouveau candidat qui va l'emporter, qui est qu'il faut aussi passer très vite, parce que le débat ne doit pas s'installer. Ça doit être le contraire de ce qui s'est passé pour le mariage pour tous ici. On n'a pas laissé traîner les choses pendant 2 ans pour éviter que les connards défilent par 1 million sous nos fenêtres. Hein ? Il faut prendre sur le vif l'opinion, elle est prête, et passer en vitesse. C'est Simone Veil, plus Pierre Simon, porté avec évidemment tous les gens qu'ils ont réussi à convaincre. Vous connaissez la suite. En parallèle, Pierre Simon sera réélu à la grande maîtrise de la Grande Loge de France. Il fera la connaissance, dans cette année fondamentale de 1974, du frère Henri Caillavet, parlementaire important, qui est passé à l'Orient éternel il y a peut-être à peu près 4 ou 5 ans. Il se lie d'une grande complicité. Ils mettront au point la première loi de 1976 sur le don d'organes, chose qui semble une évidence aujourd'hui et qui était illégale jusqu'en 1976. Donc on est encore là dans des avancées incroyables. Ils feront une loi sur la stérilité qui est le début de ce qu'on appellera aujourd'hui la PMA. Hein, donc voilà, de ce que vous connaissez, de ce qui va être encore débattu dans la loi bioéthique qui passe au Parlement. Surtout Pierre Simon crée en 1980 avec un écrivain et non pas avec Henri Caillavet l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, qui reste le principal fer de lance dans ce pays pour faire abolir un des derniers tabous, ou faire tomber un des derniers tabous, qui est le droit de sortir dignement et de ne pas aller comme on le faisait dans les années 60 dans un pays étranger pour se faire avorter, de ne pas aller aujourd'hui en Suisse ou en Belgique pour mourir de façon à peu près correcte et digne. Hein. On est encore dans des parallèles et dans des choses qui me semblent nécessaires à travailler, et puis des constats d'évidence quand on regarde un petit peu le tableau. Vous dire aussi en 2 mots, mais je ne viendrai pas dessus, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire sur Pierre Simon, sur la façon dont il a fini parler à l'Église catholique, qu'il a fait venir à la Grande Loge de France. C'est la première invitation officielle d'un évêque dans une obédience maçonnique qui sera accepté, et ce malgré la tentative de certains évêques de faire tomber le truc. C'est la papauté qui donne l'accord, c'est quelqu'un de dialogue, vous l'avez compris, hein. Il faut combattre, et puis à un moment, il faut tous ceux avec qui on peut travailler, il faut les attraper, hein. Il faut peu à peu les faire changer d'idée, c'est une méthode maçonnique aussi, hein, pour essayer, non pas d'imposer, mais essayer de faire réfléchir les gens, et de les faire un peu bouger. Voilà. Pierre Simon, s'il vivait aujourd'hui, il est mort, il est passé à l'Orient éternel en 2008, je pense que il travaillerait à plusieurs chantiers. Il aiderait sans doute les Irlandaises, mais là c'est bon, mais peut-être demain les Polonaises, à faire passer une loi qui me semble essentielle. Il travaillerait sans doute à un dernier chantier qui est inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution, qui me semble la seule façon aujourd'hui de ne pas revenir en arrière, parce que les demandes sont nombreuses de gens qui veulent revenir sur ces acquis, qui ne sont jamais des vrais acquis, hein, au sens où il ne faut jamais relâcher et jamais baisser la vigilance. C'est la seule façon importante, d'après moi, plutôt que de vouloir inscrire la Corse dans la Constitution française, ce dont je me contrefous, hein, sincèrement, ayant fait des enfants avec une Corse, c'est inscrire l'avortement dans la Constitution, qui me semble la seule façon de tenir bon et de ne pas se voir demain matin revenir en arrière, que ce soit en France ou via l'Union européenne. Les pires démons peuvent revenir à un moment ou à un autre dans une Europe où les réacs seraient majoritaires. Voilà, il pense qu'il trouverait beaucoup d'autres combats ensuite aussi à faire passer, et je pense que là, cette fois, moi, j'ai atteint mon temps de parole, j'ai dit...
Voilà, eh bien, merci Emmanuel pour ce brillant exposé sur Pierre Simon. Alors, ce que tu ne sais peut-être pas, c'est que je suis de la génération de gynécologues accoucheurs d'après Pierre Simon, et que tout ce que tu as raconté a complètement parlé. Alors, j'ai une anecdote à propos de l'avortement, c'est que j'étais interne en gynéco en 73, alors ça commence à faire quelques années, et j'ai vu une femme de Mirecourt, donc pour les locaux de l'étape, vous comprendrez très bien ce que je veux dire, Mirecourt, une mère de trois enfants qui est arrivée dans le service dans lequel je travaillais et qui est morte 48 heures plus tard d'une septicémie parce qu'elle avait été trafiquée avec des aiguilles à tricoter parce qu'on appelait à l'époque une faiseuse d'ange. Donc, ça a été un combat extrêmement difficile et c'est vrai qu'on doit tous remercier Pierre Simon d'avoir mené ce combat pour la libération de la femme, la libération de la sexualité et puis créer un monde, une humanité meilleure et plus éclairée, on dirait quelque part là-dessus. Il y a une chose, il me semble, sur laquelle tu n'as pas assez insisté, c'est que Jean Royer était le prototype même de la démocratie chrétienne. Et le combat qui a été mené entre la gauche et les gaullistes, je dirais d'une manière générale, étaient menés contre une démocratie chrétienne particulièrement rétrograde. Alors, la parole circule. Ceux qui souhaitent prendre la parole lèvent la main et la parole sera accordée.